R22, tout le monde. Antenne polychrome.
Bonsoir. Alors, je vais commencer par quelques remerciements parce que je crois que c'est de mise. Donc, je voulais remercier l'invitation de l'association Polychrome et de Renaud Chantraine. Je voulais également remercier mon ami Gérard Koskovitch, ici présent dans la salle, et la GLBT Historical Society de San Francisco, qui m'a beaucoup soutenue dans les recherches de cet été. Je voulais remercier le Centre National des Arts Plastiques de m'avoir donné une bourse pour aller à San Francisco faire ses recherches. Et je voulais remercier aussi Claire Loristique au CREDAC, qui a été la première à me pousser à faire ces conférences qui ont fini par être des conférences drag, comme vous pouvez le voir. Donc je vais commencer sans plus attendre cette conférence donc sur le groupe Akimbo. Pourquoi cette conférence et pourquoi cet intérêt pour ce groupe ? D'abord, c'est un groupe sur lequel on trouve très peu d'informations sur Internet, puisque c'est un groupe dont l'essentiel des activités s'est déroulé dans une ère pré-numérique qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Donc autour de entre 1989 et 1992. Et le fait que ces activités étaient très largement anonymes ont évidemment empêché la diffusion des images d'Akimbo sur Internet plus tard, même si on trouve quelques sources sur Internet, mais la plupart des images d'Akimbo ne sont pas disponibles en ligne. Une deuxième raison pour laquelle ce groupe m'intéressait en particulier, c'est parce que je travaille en ce moment à une publication sur les généalogies d'un art queer, et donc il me semble que pour essayer de définir ce que pourrait être un art queer aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher un petit peu quels sont les précurseurs et précurseuses d'un art queer dans l'histoire de l'art, et voire même de trouver des choses qu'on a peut-être pas encore vraiment étudié dans l'histoire de l'art, et Akimbo avec ses positions esthétiques très claires qui sont mises au service d'un activisme politique, semble de fait renouveler un art politique, et cet art politique, c'est pour moi le fondement de ce que peut être un art queer aujourd'hui. Le contexte politique qui est lié à l'apparition d'Akimbo, c'est-à-dire les débuts de l'épidémie du sida, crée une urgence de représenter les sexualités et de les faire sortir de ce que Gail Rubin a appelé les poches de terreur dans lesquelles elles sont tombées, et donc de reprendre le pouvoir de nommer ce qu'est le sexe. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît encore aujourd'hui extrêmement important, surtout quand on voit les résurgences des pensées autoritaire et fasciste de par le monde. Donc retrouver ce pouvoir de nommer, essayer de nommer ce qu'est le sexe, ça fait partie pour moi des éléments qu'on va retrouver dans un art queer contemporain. Le contexte donc d'apparition de ce groupe, ce sont ce qu'on a appelé les cultural wars, une espèce de véritable guerre de représentation qui s'est déroulée à partir du milieu des années 80 aux États-Unis en particulier, puisque comme vous le savez peut-être, il a fallu attendre 1985 pour que Ronald Reagan mentionne publiquement le sida, alors que la maladie était connue depuis 1981. Je vais donc commencer par une citation d'une ancienne membre d'Akimbo que j'ai interviewée cet été, et qui disait « On aurait dit qu'on était en guerre. On ne savait pas qui allait mourir. À cette époque, personne n'avait d'enfants. Personne n'allait avoir d'enfants. Personne n'allait se marier. Et clairement, personne n'allait s'engager dans cette putain d'armée. Nous n'étions intéressés par aucune de ces choses. Nous étions politiquement radicaux et radicales à un niveau que littéralement personne ne comprenait. L'establishment gay nous disait de nous calmer. En tant que membres d'ACT UP, nous étions un groupe agressif d'action directe, identifié publiquement, avec une mission très spécifique. Sauver la vie des gens. Et Akimbo était le splendide enfant anonyme, né de tant d'art et de fureur, et de tant de joie. Je me considère comme un soldat de ce mouvement. Ça donne un petit peu une impression de ce que pouvait être le contexte politique de l'époque et le contexte dans lequel ces activistes devaient agir. Le contexte est aussi un changement d'affect des communautés homosexuelles qui suivent la décision de la Cour suprême en 1986, la décision dans l'affaire Bowers versus Hardwick. Cette décision soutient la décision de la Cour de l'État de Géorgie qui criminalisait la sodomie. À partir de ce moment-là, les communautés homosexuelles américaines se rendent compte qu'elles ne seront finalement jamais acceptées socialement, et leur volonté de se fondre dans la population, leur volonté de s'intégrer se transforme en fureur, puisque c'est déjà un moment où l'épidémie du sida est très présente depuis plus de 4 ans. Et donc, en plus des morts qu'il et elle ont autour d'eux, on a ce désaveu de l'État fédéral américain. Donc, il y a vraiment un contexte comme ça de prise de conscience très, très fort et de rage du fait de cette position de l'État américain, à la fois de la Cour suprême et également du président Reagan, qui n'est pas du tout... qui ne semble pas alarmé par ce qui se passe. Enfin, un troisième élément de contexte, ce sont les amendements Helms en 1987. Donc Helms, c'est un sénateur de... Jesse Helms, c'est un sénateur de Caroline du Nord, qui est déjà un sénateur extrêmement de droite dure, comme on dirait aujourd'hui, qui s'est illustré déjà dans les années 70 pour ses positions anti-avortement, et qui en 1987... fait passer un amendement qui empêche l'allocation de budgets fédéraux pour les campagnes de prévention contre le sida. L'argument étant de dire que le fait de prévenir, de faire cette prévention, c'est aussi, par le même geste, faire la promotion de sexualité entre guillemets déviante. Et donc, pour ne pas faire la promotion de sexualité déviante, il ne faut donc pas faire de prévention. Il faut donc laisser l'épidémie se diffuser. C'est évidemment une logique un petit peu étrange. Il faut savoir donc à l'époque, la droite américaine, enfin, la stratégie de la droite américaine, c'est plutôt l'abstinence. C'est plutôt de dire, bon, bah, si vous ne faites rien, ça sera mieux. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'épidémie. Évidemment, ce n'est pas du tout une approche réaliste et évidemment efficiente de cette épidémie. Donc, Jesse Helms et ses combats viennent symboliser une forme de moralisme extrêmement hardcore, de conservatisme et d'irresponsabilité qui soutient d'autant plus, qui alimente d'autant plus la rage que ces activistes vont commencer à transformer en véritables actions dans l'espace public. C'est ce qui amène à la naissance d'ACT UP, que vous connaissez certainement. Donc, je ne vais pas vraiment revenir sur la naissance d'ACT UP. Donc en 1987, ACT UP se dote aussi d'un bras armé artistique, de plusieurs bras armés artistiques, de plusieurs groupes qui viennent donc des militants d'ACT UP et qui vont créer des campagnes d'action par l'image, donc notamment Grand Fury, qui est le groupe le plus important. Le motto d'ACT UP, sa façon de s'exprimer, sa façon d'agir prend comme base ce que Douglas Crimp résume ainsi, tout ce qui est dit ou fait à propos du sida, qui ne donne pas la prééminence aux connaissances, besoins et demandes qui viennent des gens vivant avec la maladie, doit être condamné. Donc c'est le moment où émerge cette idée qui, à mon avis, est aussi un des fondements de la pensée queer, c'est les premiers et les premières concernés qui vont être ceux qui vont agir et ceux qui vont pouvoir dire ce qui les représente, comment ils doivent se nommer et comment ils doivent agir, comment on doit agir avec eux. C'est aussi pour moi la base d'un discours sur l'autre qui est, à mon avis, productif aujourd'hui, c'est-à-dire avant de dire ce qu'est l'autre, il faut peut-être lui demander ce qu'il en pense. C'est en ça que je trouve que c'est quelque chose qui reste extrêmement, extrêmement contemporain. Donc, ACT UP et Grain Fury vont produire un certain nombre d'actions, notamment dans le monde de l'art. On voit ici une double page que Grain Fury a fait paraître dans la revue Art Forum en octobre 1989, avec deux reproductions, donc une image, un portrait de Jesse Helms à droite, avec ce petit cartouche qui dit Control, et puis un commentaire sur les amendements Helms imprimés sur le portrait. Et puis à gauche, la reproduction d'un article du New York Times qui explique que finalement le sida c'est pas si grave que ça et que surtout ça concerne simplement les homosexuels et les drogués, donc pourquoi vraiment s'en occuper. Donc Grain Fury agit comme ça. Alors ça c'est pas la campagne la plus connue de Grain Fury, mais c'était pour montrer à quel point Grain Fury va agir à la fois dans l'espace public mais aussi dans les instances de l'art, notamment Art Forum. En 1989, Jesse Helms s'illustre à nouveau lors du vote de la loi qui fixe le budget du National Endowment for the Arts. Donc le National Endowment for the Arts, c'est l'équivalent de notre Centre National des Arts Plastiques, un organisme qui distribue des subventions pour l'art. Et Jesse Helms propose qu'on arrête de subventionner un art qu'il juge obscène. Par là, il vise en fait deux artistes en particulier, deux expositions qui ont énormément fait parler d'elles cette année-là. C'est l'exposition d'Andrés Serrano au Virginia Museum of Fine Arts et celle de Robert Mapplethorpe qui vient de décéder donc en mars. La conséquence de ces débats et de ces amendements Helms sur le budget du National Endowment for the Arts fait que l'exposition de Mapplethorpe qui était prévue à la Cochrane Gallery de Washington DC est annulée par la directrice. Donc c'est pas vraiment une censure directe, mais la directrice, pour se prémunir de ce qui allait probablement être à nouveau un débat compliqué sur le caractère obscène du travail de Mapplethorpe, décide d'annuler l'exposition. C'est une décision qui va évidemment créer énormément de remous dans le monde de l'art. Il va y avoir immédiatement une réaction des artistes qui vont organiser sur la façade de la Cochrane Gallery une projection de photographies de Mapplethorpe. Donc ces images qu'on aurait dû voir dans l'exposition sont projetées de façon performative quasiment sur cette façade, et un grand nombre d'artistes, un grand nombre de personnes de la communauté artistique de la côte Est viennent donc s'amasser devant la porte de la Cochrane Gallery pour dénoncer cette décision de la directrice de la Cochrane Gallery. On voit également la couverture, donc comment l'événement a fait la couverture d'Art Forum, donc en septembre 1989. Là aussi, pour vous montrer à quel point c'était des événements qui étaient extrêmement suivis et soutenus par la communauté artistique. C'est l'événement qui va faire basculer, qui va permettre la création, le fait que ces gens à San Francisco vont se rassembler et vont commencer leurs actions. Le contexte à San Francisco est un contexte qui est déjà extrêmement militant dans cette crise du sida qui est déjà bien, bien avancée. Les actions militantes à San Francisco ont commencé très tôt, même avant la création d'ACT UP, puisqu'on voit ici une image du ARC AIDS Vigil, donc qui est une action militante qui a commencé en 1985 et qui durera 10 ans jusqu'en 1995, jour et nuit. Donc les activistes se sont relayés en s'enchaînant à la porte du Federal Building sur UN Plaza à San Francisco, pour réclamer évidemment des budgets fédéraux pour les soins aux malades du sida, pour les programmes de prévention, et également l'accélération de l'approbation des médicaments déjà disponibles, des traitements déjà disponibles en Europe par la Food and Drug Administration, qui à l'époque, donc la FDA, était extrêmement lente dans ses processus, et donc on savait qu'un certain nombre de traitements étaient disponibles en Europe, mais ils n'étaient toujours pas arrivés aux États-Unis. Donc ces activistes décident de montrer à quel point ces choses-là ne sont pas gérables pour la population de San Francisco et vont rester là véritablement pendant 10 ans. San Francisco est une des villes américaines les plus touchées par l'épidémie du sida. Le bilan total est d'environ 20 000 morts sur une population qui est passée de 600 à 800 000 habitants jusqu'à aujourd'hui. En 1984, 50% de la population homosexuelle masculine de la ville était infectée. C'est donc un contexte de catastrophe naturelle quasiment qui est celui dans lequel Akimbo se forme et dans lequel donc ces militants sont déjà extrêmement aguerris à l'action politique puisque les membres d'Akimbo sont en fait déjà des militants d'ACT UP et ont déjà une activité militante j'allais dire quasi à plein temps. Donc dans ce contexte-là, ces membres d'ACT UP se retrouvent un jour au Café Flore à San Francisco, donc dans le quartier de Castro, après avoir appris l'annulation de l'exposition de Mapplethorpe à Washington DC, et se disent « Bon, là, on fait déjà tout ce qu'on peut pour les malades, pour parler de la maladie, maintenant il faut parler de cette chose nouvelle ou quasi nouvelle qui est la censure artistique et le fait qu'on n'a plus le droit de représenter des nus, parce que c'est finalement ça le débat autour de l'exposition de Mapplethorpe. Cet homoérotisme semble impossible à représenter aux États-Unis à ce moment-là. Qu'est-ce qui est taxé d'homoérotisme ? La première action d'Akimbo va s'appeler Heart Attack et va avoir lieu le 12 août 1989. Donc c'est ce groupe de gens décide donc de cette forme d'action qui va rester la leur pendant tout le moment de leur action, qui est la création d'affiches de façon très très basique en fait. Il vous suffit juste d'un photocopieur pour pouvoir créer des affiches Akimbo. Donc les images, ce sont des images récupérées, flanquées d'un texte et collées directement sur les murs. L'idée de Heart Attack, c'est de mettre dans la rue cet art qui est considéré comme honteux, cet art qu'on ne veut pas voir et cet art dont les expositions sont annulées. C'est-à-dire de sortir finalement l'art de la galerie et de mettre face à quiconque, aux passants dans la rue, ce qui semble être choquant pour les programmateurs d'art de l'époque. Donc dans cette nuit du 12 août, ils vont coller ces affiches sur le Federal Building à San Francisco. Donc de la même façon, à nouveau mettre ça, lier ça à l'action, ou plutôt l'inaction du gouvernement fédéral américain. Les images qu'ils utilisent sont des images des œuvres de Mapplethorpe, des images du photographe et chorégraphe néerlandais Hans van Manen. Ils utilisent également une solarisation de Man Ray. Et ils tirent donc des grandes affiches, donc qui sont en fait des collages, d'environ 1,20 m par 1,50 m, qu'ils assortissent du logo Akimbo et de différentes mentions. Donc l'une des mentions, c'est « That's not nasty, that's art », ce n'est pas dégoûtant, c'est de l'art, ou Advocates of Homoeroticism, donc les avocats de l'homoérotisme. Ils sortent également un communiqué de presse, donc dans la tradition de l'organisation assez classique d'exposition. Pour eux, finalement, ils font l'exposition dans la rue. Et dans leur communiqué de presse, on peut lire « Boy with Arms Akimbo est une organisation qui s'emploie à améliorer la visibilité et la conscience publique de questions humanistes. » Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait, la façon dont ils ne se présentaient pas directement comme les représentants d'une communauté particulière, mais plutôt en disant « si vous refusez finalement ces droits humains aux homosexuels, comme on l'a vu avec la décision Bowers vs. Hardwick, donc qui met ces lois d'interdiction de la sodomie à un niveau fédéral. Si vous placez ces gens dans ce système d'inégalité, vous agissez contre l'humanité tout entière. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'objectif d'Akimbo ici est plus large que celui de Grand Fury, puisque l'objectif de Grand Fury, c'est vraiment de mettre l'accent sur la maladie, l'épidémie, la prévention et les malades du sida et leur représentation. Ici, on est dans un domaine plus large qui est celui de la représentation de l'art. Il y a aussi une façon très encapacitatrice, si on veut dire le mot en français, ou empowering, de se mettre comme ça dans la rue aussi à portée de tous, et aussi de pouvoir s'adresser à tous en disant finalement vous pouvez aussi le faire, de s'adresser directement aux passants. Ce do it yourself qu'Akimbo semble prôner dès le départ, c'est une philosophie qui est il me semble extrêmement liée à la ville, même à l'histoire de la ville de San Francisco. Ainsi, en fait, dès 1981, dans le quartier de Castro, on a vu apparaître des affichettes sur les poteaux ou dans les commerces pour essayer de faire en sorte que les gens aient des pratiques sexuelles safe. Donc, il y a eu les activistes de San Francisco, les gens des communautés homosexuelles n'ont pas du tout attendu que le gouvernement fédéral ou que le gouvernement de Californie mette de l'argent dans les campagnes de prévention. Ils ont eux-mêmes tout de suite essayé de prévenir l'épidémie en donnant de l'information sur la maladie avant même que la maladie soit nommée, avant même qu'on sache exactement quels étaient les moyens de transmission. On savait en tout cas que c'était une maladie qui était sexuellement transmissible, et donc ces affichettes ont eu pour premier objectif d'informer les populations à risque. On voit apparaître aussi parmi les actions d'Akimbo donc des informations qui sont dans les fanzines queer, pré-queer, queer, c'est déjà queer quand même de l'époque. Donc dans ce fanzine qui s'appelle Homoture en 1990, Akimbo écrit cette communication qui explique comment en fait leurs affiches ont été arrachées du quartier de Castro, qui est pourtant censé être un quartier communautaire, un quartier où la prévention et l'information sur les risques encourus devraient être bien accueillis. Ce qui est assez beau, c'est qu'au bas de l'article, on voit cette petite encadrée qui dit que voilà, ce flyer a été affiché avec une colle acrylique qu'on peut trouver au Art Institute de San Francisco. Et Akimbo finit en disant 9 activistes sur 10 préfèrent cette colle à une autre. Donc on donne toujours, avec humour et aussi avec précision, la façon efficace d'être activiste et de le devenir soi-même. Donc vous-même, vous pouvez aller acheter votre colle et vous-même, vous pouvez faire votre poster et vous pouvez sortir dans Castro et coller vos posters d'Akimbo ou d'autres posters. Donc il y a vraiment une volonté de partager l'information qui est tout à fait dans l'esprit san-franciscain. Une autre communication qui est aussi assez intéressante de l'époque et qui va être distribuée dans différents locaux d'ACT UP et dans différents locaux militants. C'est donc un parfait petit manuel de la guérilla urbaine façon akimbo, où on explique comment on fait pour coller les affiches, on explique quel équipement il faut avoir, où se procurer la colle, quel type de colle à nouveau, où aller coller les affiches pour que ce soit le plus efficace et le plus intéressant possible. Également des petits conseils au cas où on se fasse prendre par la police ou on soit arrêté. Pour moi, ça c'est aussi extrêmement important, c'est-à-dire que on n'est pas dans une pratique autoritaire de volonté d'imposer quelque chose à une communauté qui n'en voudrait pas, mais on est dans une sorte de pédagogie de l'activisme qui essaie d'infecter en fait. Là aussi, lancer une sorte d'épidémie de l'activisme qui serait donc là pour contrer cette épidémie de la pensée réactionnaire qu'on trouve à ce moment-là quand il s'agit de parler de sexualité et des représentations de la sexualité, ce qui m'intéresse évidemment au titre de mes recherches. Ce qui a été aussi une constante d'Akimbo, ça a été donc non seulement donc cette caractère incapacitateur, l'idée du copyleft, puisque tout le monde peut se saisir de ses œuvres, de ses pratiques, l'idée de l'anonymat, donc c'est un réseau sans porte-parole. Quand le New York Times désire interviewer Akimbo en 1989, au début 90, le New York Times demande à Akimbo de nommer un porte-parole que le journal puisse nommer précisément dans ses feuilles, et Akimbo refuse puisque donc ils veulent imposer cette radicalité qui est de dire il n'est pas question de personnifier Akimbo. Akimbo n'est pas une personne, Akimbo est un groupe, un collectif, et si on commence à personnifier, si on commence à donner des noms propres, on sait ce qui se passe dans l'art comme dans la presse, c'est le nom propre, c'est l'anecdote qui l'emporte par rapport aux propos politiques. Donc l'idée, c'est de garder le propos politique comme quelque chose qui va être le seul objet des communications d'Akimbo. Dès qu'on va commencer à partir sur des noms propres, évidemment, ça sera plus, on va pouvoir raconter la vie des gens, et c'est pas ce qu'Akimbo souhaite. Il y a aussi dans cette façon de faire une pratique, donc cette façon collective de faire, une pratique de la critique de l'ego de l'artiste, de l'artiste comme ego ou comme individu, qui, moi, me paraît extrêmement importante aussi pour la façon dont on va essayer d'imaginer l'art queer jusqu'à présent. C'est que l'histoire de l'art essaie de raconter une histoire des artistes, des individus. Et les groupes, les collectifs, évidemment, rentrent difficilement dans cette narration. Akimbo, dès le départ, aussi parce qu'il est formé d'artistes et d'historiens de l'art et de critiques d'art, va se positionner là-dessus. Et donc va adopter une sorte de stratégie de distanciation vis-à-vis d'une certaine idéologie de l'art qu'il dénonce. Cette organisation en fait complètement éclatée, floue, qu'est Akimbo, permet aussi de voir apparaître des projets individuels. Et c'est le cas donc d'un projet qui s'appelle Art Without Ego, qui est une installation qui est faite par un des membres d'Akimbo dans un artist run space qui s'appelle Artist Television Access, qui se trouve dans Mission à San Francisco, les 30 et 31 décembre 1989. Et donc cet artiste, donc avec le nom d'Akimbo, avec d'autres membres d'Akimbo, décide d'afficher en fait un certain nombre de statements qui leur paraissent représenter la philosophie d'Akimbo. Donc certaines sont assez évidentes. Calling a cunt obscene shifts the accusation from the truly obscene, the practicing authorities, banks, politicians, corporations, networks, churches, hospitals and schools. We have a lot of fun. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'il y a cette idée aussi que, voilà, if I can dance, I don't want to be part of your revolution. Donc, il y a cette idée aussi dans Akimbo, malgré une espèce de contexte, comme je vous le décrivais, extrêmement lourd, de perte humaine, de deuil total, qu'il faut aussi s'amuser, que l'activisme, c'est quelque chose de joyeux et que on peut aussi être dans ce groupe juste parce que on veut s'amuser avec l'activisme. Most art galleries and museums' sole interest is the capital of selling and investing in names. Donc la plupart des galeries, le seul intérêt de la plupart des galeries et des musées est donc le capital de vendre et d'investir dans des noms. Donc là, c'est très clair par rapport à cette critique de l'ego de l'artiste. Comme je le disais, donc c'est une organisation floue et sans porte-parole. Et c'est aussi la façon dont, c'est ce que reflètent les différents logos qui vont être utilisés pour représenter l'action d'Akimbo. Donc ce Boy with Arms Akimbo qui est le premier logo, qui vient d'un dictionnaire pour enfants qui date de 1962, donc avec ce petit garçon avec les bras sur les hanches. Ce qui est important, c'est que Akimbo, c'est un terme qui est assez désuet et qui est pas tellement facile à traduire dans d'autres langues. Donc ça garde un caractère extrêmement abstrait. Et c'est ce qui les intéresse évidemment, c'est que finalement ça ne veut rien dire, c'est assez abstrait pour que tout puisse être passé sous le chapeau de ce Boy with Arms Akimbo, mais pour représenter aussi le fait qu'il n'y a pas que des garçons dans ce collectif, ils adoptent également le Girl with Arms Akimbo qui vient également du même dictionnaire. Et puis pour illustrer également que ce groupe abrite de façon complètement démocratique un certain nombre d'initiatives, on a même eu donc un Leather Person Akimbo. Donc un des membres du groupe Akimbo était quelqu'un de la communauté cuir de Los Angeles, de San Francisco pardon, et à ce titre a voulu créer son logo Leather Person Akimbo et lui-même fabriquer des affiches qui se basaient sur des images de pratiques BDSM. Il y a une certaine poésie dans cette volonté de ne pas être démonstratif entre ce logo, ce logo très humain, très humanisé, et les actions qui découlent du travail collectif d'Akimbo. En septembre, donc après Art Attack qui a lieu en août 1989, Akimbo, le collectif est contacté par la San Francisco Art Commission Gallery, qui est la galerie municipale de San Francisco, pour faire partie d'une exposition. Donc ça crée tout de suite un débat parmi les membres d'Akimbo, qui se disent, bon, est-ce que, bon, on est quand même un collectif d'activistes, est-ce qu'on a intérêt à aller tout de suite dans l'institution et peut-être se faire récupérer? Et ils résolvent la question de la façon suivante. Donc, il décide de participer en effet à cette exposition, qui est une exposition sur la censure, qui s'appelle What's Wrong with This Picture. Mais il décide de le faire à deux titres, c'est-à-dire à la fois de concevoir une installation à l'intérieur de l'espace institutionnel, mais également de faire de façon non annoncée un affichage sur les vitrines du San Francisco Art Commission Gallery, sans évidemment que la direction soit au courant. Donc l'idée, c'est de dire à chaque fois qu'on sera invité dans une institution, il faut y aller parce qu'il faut toujours aller agir dans l'institution, à l'intérieur de l'institution. Il ne faut pas être dans une radicalité qui consisterait à laisser ces endroits à l'ego de l'artiste et à l'idéologie de l'art. Mais il faut en plus faire un petit cadeau supplémentaire qui est de venir dégrader les locaux par l'affichage sauvage. Ainsi, donc, on voit l'installation à l'intérieur de la San Francisco Art Gallery et puis une assez mauvaise image de l'affichage sauvage sur la vitrine. L'installation n'était pas vraiment une installation telle qu'on pouvait l'imaginer de façon classique, puisque Akimbo avait placé un fax dans l'institution et avait distribué un certain nombre de cartes postales dans les milieux activistes et artistiques pour inciter les artistes à envoyer des contributions par fax. Et chaque jour, les contributions étaient relevées et elles étaient affichées dans l'espace d'exposition, ce qui faisait que tout un chacun, n'importe quel artiste, n'importe qui, à vrai dire, on n'avait pas, même pas besoin d'être artiste, pouvait participer à l'exposition et être affiché dans les murs de la San Francisco Art Commission Gallery. Donc on voit une image en bas à gauche du fax avec les fax qui sont en train, les contributions qui sont en train d'être reçues. Et puis en haut à droite, donc un exemple d'une des contributions qui avait été reçue par Akimbo et affichée dans l'espace d'exposition. Akinbo avait aussi mis des images de sa première action, donc Art Attack, des images donc, de Stan Malytic, qui était un photographe ami du groupe et qui avait documenté cette première action. L'idée donc c'est aussi de à la fois donc comme je disais faire entrer cette idée du collectif contre l'ego de l'artiste, mais aussi interpeller tous et toutes afin qu'ils puissent s'enrôler dans la lutte. Et je crois que cette intervention sur la vitrine, c'est aussi assez beau parce que c'est aussi cette idée que on ne parle pas que pour les gens qui oseraient rentrer dans la galerie, on parle aussi pour ceux qui vont de toute façon rester à l'extérieur, et peut-être même qu'on crée une possibilité de dialogue entre l'intérieur et l'extérieur avec cette intervention sur la vitrine et dans la rue. Sur la vitrine, c'est le début donc d'une campagne qui a été, je pense, la plus regardée, la plus connue, qui s'appelle Just Sex, Sex Is, et dont l'enjeu principal est de représenter ces sexualités dites dangereuses, ou tout type de sexualité, à vrai dire, et ainsi de reprendre ce pouvoir de nommer. Qui avait été dont on avait été à ce moment-là, dont ces groupes avaient été dépris par cette volonté droitière de diaboliser les sexualités. Donc Sex is Just Sex, ce sont environ 2000 posters qui sont disséminés dans la ville. Donc la façon de faire, c'est à peu près la même que pour Art Attack. Donc ce sont des images récupérées, appropriées, qui sont photocopiées et qui, par procédé de collage, donc sont collées, sont décorées de ces mentions. Donc deux mentions, Just Sex, juste du sexe, et Sex Is avec un point final, le sexe est. Donc cette mention, le sexe est, c'est très important pour moi parce que c'est pas le sexe est. C'est le sexe et point. Donc, le sexe, ça existe et toutes sortes de sexes existent. Et ce n'est pas aux autres de dire ce qu'est le sexe. Chacun a la sexualité qu'il veut. C'est ça qui me semble être le message d'Akinbo dans Sex Is. Le dialogue entre les mots et l'image, les images sont aussi extrêmement intéressants puisque de la même façon que le logo d'Akinbo, le nom d'Akinbo crée une espèce de relation poétique avec ses actions. Là, il y a une relation poétique entre les images représentées et le slogan. Et qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les pratiques de l'époque, des pratiques d'artistes féministes de ce qu'on a appelé la Picture Generation. Donc on peut penser à Barbara Kruger, on peut penser à Jenny Holzer qui elle aussi écrivait des statements ou des slogans. Et donc cette idée de reprendre le pouvoir de nommer, c'est quelque chose qui est à mon avis dans ce travail féministe qui est de ne pas se laisser désigner, mais de véritablement donner sa propre définition du monde qui nous entoure. Il y a diverses sources d'images donc qui sont utilisées pour Just Sex, Sex Is. Il va y avoir, alors là c'est un peu une exception parce que c'est une image qui a été fabriquée pour la série, mais je crois que c'est la seule, les autres sont que des images appropriées, mais elle a été fabriquée par une des membres d'Akinbo qui considérait qu'il n'y avait pas assez d'images lesbiennes dans les images qu'on pouvait utiliser, et donc elle avait fabriqué sa propre image. Sinon, dans cette série, il y a des images, il y a énormément d'images, il y a beaucoup d'images du livre d'éducation sexuelle Show Me du photographe Will McBride, qui a été un livre qui a fait scandale dans les années 70, et du coup qui est ressorti comme ça, dont les images sont ressorties par Akinbo pour montrer à quel point ces images sont presque impossibles à regarder à ce moment-là. Et donc évidemment, aller les ressortir et les mettre dans la rue, c'est une action extrêmement forte. Il y a des illustrations du romancier et illustrateur gay Guy Davenport. Il y a des images clip art Il y a des images issues d'un des livres du sexologue allemand Magnus Hirschfeld. Donc il y a vraiment des choses très différentes, des images de cinéma. Ça, c'est l'image clip art que j'aime bien. Et ça, c'est l'image donc, qui vient d'Hirschfeld et que je trouve très symbolique et très dérangeante également. C'est-à-dire que finalement, ce que fait Akimbo, ce n'est pas conforter non plus une image qu'on pourrait avoir très arrangeante de ce que pourrait être aussi une sexualité homosexuelle, par exemple. Mais elle met comme ça en question les régimes de pouvoir des représentations du sexe. Là, donc, c'est une image où on voit Hirschfeld en train d'examiner un patient ou une patiente et en train de montrer les organes génitaux de ce patient ou de cette patiente à la caméra. Et Hirschfeld est un de ceux qui permettent à ces questions-là de progresser dans les années 30. Donc c'est un progressiste et pourtant l'image est dérangeante et pourtant l'image raconte l'histoire aussi de la pathologisation des sexualités comme le raconte Foucault dans l'histoire de la sexualité. Et donc le fait de mettre cette image d'un médecin habillé avec un patient ou une patiente à moitié nu et d'ajouter juste du sexe, évidemment ça pose question. Est-ce que notre façon de considérer, de représenter, de regarder les représentations du sexe nous fait dire que c'est juste du sexe, ou est-ce que à chaque fois il y a quelque chose qui est il y a des cartes à rebattre, il y a des questions à se poser à nouveau sur toutes les représentations qui sont les nôtres, même celles auxquelles on est le plus habitué. Créer du trouble par l'image, selon Akimbo, c'est déstabiliser le pouvoir de nommer, mais c'est déstabiliser aussi ces régimes sexuels dans lesquels on est. Et Akimbo s'inspire également de la pensée non seulement de Foucault mais aussi de Gail Rubin, qui est cette donc, anthropologue féministe américaine qui réside à San Francisco à la fin des années 70, dans les années 80, et qui a parlé également des hiérarchies des sexualités. Donc dans ce questionnement des images de la représentation du sexe, Akimbo est dans la droite file de ce que dit Gail Rubin sur la nécessité de déhiérarchiser les comportements sexuels, et qu'un comportement sexuel n'a pas à être plus ou moins valide qu'un autre. Donc dans cette idée de pouvoir de nommer, je crois que ce procédé de collage entre l'image et le texte, qui est le procédé à l'honneur dans le travail d'Akimbo, est à mon avis extrêmement efficace. Ce qui est intéressant aussi dans cette série Sex is Just Sex, c'est que elle renforce donc ce que je vous disais en début de cet exposé sur à la fois donc une approche do it yourself, donc extrêmement claire. Donc il y a aussi évidemment à San Francisco à cette époque-là une culture de fanzine qui est très forte. Donc cette idée de faire des photocopies et de créer avec le moyen de la photocopieuse est quelque chose qui est extrêmement répandu. Aussi cette approche pro-sexe, comme je vous le disais, cette pensée de Gail Rubin qui innerve la pensée politique sur les sexualités à l'époque. Et cette pensée pro-sexe, ça vient même de plus loin que le travail de Gail Rubin. Puisque dès la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, San Francisco était l'endroit, et notamment Tenderloin, un quartier central et populaire de San Francisco, était l'endroit où venaient s'établir des célibataires qui n'avaient peut-être pas encore exploré les possibilités sexuelles qu'ils auraient voulu, mais qui pouvaient venir habiter à San Francisco comme personne seule, ce qui n'était quasiment pas possible ailleurs, étant donné la culture morale. Donc s'installer à San Francisco dès cette époque-là, c'est décidait de ne pas se soumettre au régime de pouvoir sexuel existant. Et c'est le faire donc d'abord peut-être de façon marginalisée, puis plus ouvertement à partir de la fin des années 60, puisque San Francisco va être le théâtre à la fin des années 60 de grands événements de la lutte de ce qu'on appelait à l'époque la libération gay, qu'on n'appelait pas encore LGBT et vraiment pas queer, notamment en 1966, donc le Tenderloin est le théâtre d'un des premiers soulèvements de cette libération gay, donc qui est le Compton's Riot, qui est une bataille entre les queens, les fairies, les sissies du Tenderloin qui se réunissent à Compton's Cafeteria, qui est donc une cafétéria ouverte 24h/24 dans le quartier de Tenderloin, qui est le quartier des bars, des boîtes de nuit, aussi le quartier de la prostitution. Et donc cette cafétéria est leur point de rendez-vous, et en fait à l'époque évidemment la police essaie le plus possible de venir déranger les gens dans cette cafétéria et procède à des arrestations, puisqu'à l'époque on n'a pas le droit de se promener dans la rue habillé dans les vêtements du sexe opposé, donc on peut être arrêté très, très facilement si on est un homme et qu'on porte un petit pull en mohair, quoi. Donc évidemment il y a une pression très très forte de la police et de temps en temps ça dégénère, et le Compton's Riot de 66, c'est vraiment le moment, un moment où ça a dégénéré très fort et où il y a une sorte de victoire, enfin de victoire, je ne sais pas si on peut appeler ça une victoire, mais en tout cas où ça marque un moment très fort d'affrontement, où il y a une rébellion en fait de ces gens qui sont attablés très tranquillement à Compton's Cafeteria et qui veulent simplement pouvoir continuer à être là chez elles et chez eux. Je vous explique ça parce que c'est pour vous montrer aussi ces luttes très anciennes, mais aussi cette possibilité à San Francisco à l'époque de vivre, je dirais pas tranquillement, mais de vivre une forme de vie qui n'était pas forcément très facile à vivre ailleurs. Par exemple, dans le club Aunt Charlie's, qui existe à San Francisco depuis une cinquantaine d'années, les spectacles de drag amateur, donc de drag, pas de drag, parce que je dis drag, c'est un peu bizarre, de drag amateur, donc de travestissement drag queen, sont faire de lance donc de cette boîte de nuit, de ce bar depuis 50 ans. Et donc ces spectacles amateurs sont pas du tout ce que vous pouvez imaginer si vous êtes déjà allé chez Michou ou dans ce genre d'endroit, mais c'est plutôt l'endroit où chacun peut venir dans sa persona de drag préférée et avec un talent absolument disons limité présenter son numéro, son acte, sans être jugé sur des critères de professionnalisme. Donc il y a vraiment cette idée de la possibilité de tester, d'être amateur dans ces techniques de soi et dans cette représentation de soi qui fait aussi l'intérêt de San Francisco dans les années 60 puis 70. Donc ces spectacles drag amateurs sont aussi le fait d'habitants même du Tenderloin, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt des gens de la working class, qui sont pas du tout des bourgeois qui voudraient de temps en temps se faire un petit frisson. Il y a vraiment cette idée que ce sont des pratiques qui sont plutôt des pratiques j'allais dire presque ouvrières en fait, donc très ouvertes à qui veut venir se produire. Dans le droit fil de cette tradition, il y a un club qui ouvre donc en 1990, qui continue donc cette tradition, qui s'appelle le club Uranus. Donc vous entendez le jeu de mots, j'ai besoin, je pense, de l'expliciter. Donc c'est un club où se réunissent, où vont aller les militants d'Akimbo, bien sûr, les militants d'ACT UP. Pendant donc cette crise du sida, donc dès le tout début des années 90, et donc qui est un club aussi extrêmement, on le comprend, politisé. Donc on voit ce flyer avec Defeat Jesse Hams. et dans lequel on crée donc cette élection de Miss Uranus, donc qui devient une espèce de chose traditionnelle et très appréciée de ces communautés politisées et queer de San Francisco. L'idée du club Uranus, c'est vraiment la revanche des freaks, donc c'est encore une fois dans le droit fil de Compton's Riot, de Aunt Charlie's et de cette culture pro-sex et freak de San Francisco. Ouais, j'arrête de dire Los Angeles, San Francisco. Il s'agit donc dans cette idée de se produire, de déjouer donc l'idée de maîtrise ou de hiérarchie de ce qui serait l'art et de ce qui serait la pratique amateur. Au contraire, finalement, plus on est mauvais et mieux c'est, et plus on est apprécié dans sa pratique. Donc il y a un renversement des valeurs qui est aussi la culture d'Akimbo. Et comme le disait Gérard, donc mon ami historien ici présent, l'idée de Miss Uranus ou du club Uranus, quand on s'y produisait, c'était « do it badly and weirdly, but do it yourself ». Donc l'idée, c'est vraiment « c'est toi ». Même si c'est mauvais, l'important, c'est que tu vas oser faire ce que tu veux faire. Donc dans cette contexte aussi de « do it yourself », d'activisme pro-sexe que j'ai essayé de vous dépeindre, la dernière action d'Akimbo dont je vais vous parler, c'est celle qu'ils ont faite pour la 6e conférence internationale sur le sida qui a eu lieu à San Francisco en juin 1990. C'est une action qu'ils ont appelée Safe Unsafe. Et là aussi, donc, on est dans cette idée de reprendre le pouvoir de nommer ce qui est safe, nommer ce qui est safe, donc ce qui est protégé, ce qui a un caractère safe, sûr. Et puis de l'autre côté, ce qui est unsafe, donc évidemment dans un discours gouvernemental, ce qui serait safe, ça serait éventuellement l'abstinence. Pourquoi pas éventuellement de se protéger quand on a des relations sexuelles. Et ce qui serait unsafe, c'est toutes les pratiques non protégées et évidemment toutes les pratiques entre guillemets déviantes qui sont visées par la droite américaine. Évidemment, Akimbo décide de retourner ça et de mettre d'autres images en rapport avec ces termes de safe et unsafe. Donc ça, ce sont des images prises dans les archives, des images de recherche pour Safe and Unsafe. Donc à nouveau, ils vont utiliser des images récupérées, appropriées, notamment pour toute la partie unsafe. Et pour la partie safe, ils vont produire une partie des images. Donc unsafe, pour eux, c'est pas la promiscuité homosexuelle. Mais ça va être les discours des hommes politiques et de différentes personnalités publiques qui vont avoir des propos qui sont eux-mêmes unsafe parce qu'ils ils font penser des choses fausses à propos de l'épidémie du sida, par exemple qu'il n'atteint que les hommes homosexuels ou qu'il n'est donc il n'est pas dangereux pour d'autres parties de la population. Donc dans les posters unsafe, donc il va être à nouveau produit par moyen du photocopieur et affiché dans la ville. On va trouver à la fois donc Jean-Marie Le Pen, on va trouver Jean-Paul II, on va trouver Jesse Helms. Le Pen parce qu'il a dit, il a annoncé que, je crois que c'était en 1987 ou 8. Qu'il faudrait construire des sidatoriums donc pour mettre les malades du sida. Jesse Helms, vous avez compris pourquoi, et Jean-Paul II, parce qu'il s'était évidemment prononcé contre l'utilisation des préservatifs. Il y a des images moins claires peut-être sur cette idée unsafe. Donc il y a justement plus poétique peut-être, la police de San Francisco sur la gauche. Judy Tomsic, c'était une politicienne du comté de Marin qui avait voulu retirer les distributeurs de capotes dans les lycées. Et donc Akimbo avait fait une édition spéciale de Unsafe pour elle et était allée participer à la manifestation contre elle dans le Marin County. Et puis Schwarzenegger, donc c'est un poster beaucoup plus tardif, donc qui a été fait lors de l'anniversaire des 20 ans d'Akimbo, pour parler de la façon dont le gouverneur d'alors, donc Schwarzenegger était gouverneur de Californie, souhaitait réduire les budgets qui étaient alloués à la lutte contre le sida. Dans la partie safe, donc on a des images. Donc une partie des images sont récupérées. Ces images-là, par exemple, sont des images d'une photographe professionnelle qui s'appelle Jessica Tanzer, qui à l'époque s'expose dans plusieurs galeries et qui donc permet à Akimbo d'utiliser ces images pour montrer ce que, selon le collectif, ce qui constitue du sexe safe. Dans la plupart de ces posters, Akimbo ajoute un petit cartouche en bas qui explique comment avoir véritablement une pratique safe. Donc notamment dans des relations lesbiennes, donc utiliser une digue buccale, et pour les relations homosexuelles masculines, utiliser des préservatifs. Donc il y a toujours cette volonté aussi très informative d'Akimbo, pour simplement donner l'information, tout en restant aussi dans une forme d'humour. Toujours avec ce copier-coller entre un terme et une image. Akimbo va produire des images pour cette série, donc un peu exceptionnellement, et des images que je trouve aussi très intéressantes parce qu'elles sont assez, étant donné les zooms et la façon de prendre les photographies, on n'est pas sûr tout à fait du genre des protagonistes, et donc on est pour moi dans des pratiques qui sont assez queer, aussi interracial, donc qui montre des choses du sexe qui sont vraiment pas dans des représentations typiques. Et ils ont également produit cette série d'images parce que ils auraient voulu montrer du sexe, des pratiques sexuelles entre hommes, et en fait toute la pornographie homosexuelle qu'ils trouvaient n'était pas des représentations qui leur semblaient intéressantes pour cette campagne. Ils voulaient vraiment des représentations plus peut-être plus étranges, plus ou même plus un peu moins, avec des corps un petit peu moins normés que ceux de la pornographie homosexuelle. Ou la pornographie, vraiment. Donc cette série est particulièrement queer également parce que elle nous parle, ces images nous parlent de plaisirs divers et qui sont pas toujours génitaux. Il n'y a pas que des organes génitaux qui sont en jeu dans ces images. Et elle ne les catégorise pas par genre. Il y a aussi énormément d'humour. Je crois quand même cette personne qui croque ses fesses, c'est quand même assez drôle. Donc il y a cette idée que ces pratiques sexuelles safe sont un lieu de créativité. Et là, je crois qu'on retrouve vraiment l'influence de Foucault, et notamment de textes de Foucault qui sont peut-être à l'époque en France pas très lus, mais qui, je crois, sont beaucoup plus connus aux États-Unis sur le sexe comme lieu de créativité. Il faut savoir, donc, vous le savez certainement, mais que à ce moment-là, Foucault, à la fin des années 70, est introduit en tout cas par Gail Rubin dans les milieux cuir et BDSM de San Francisco. Et donc les textes qu'on voit apparaître, les interviews qu'on voit apparaître de Foucault à ce moment-là, qui sont extrêmement importantes, je vous enjoins à les lire si vous ne l'avez jamais fait, qui sont parus dans les 10 et écrits, montre à quel point il a compris quelque chose des limites du corps et de la créativité du sexe qui je crois nourrit vraiment sa pensée, notamment par rapport à cette volonté de décrire une forme de liberté qu'on peut avoir par rapport aux identités. Cette communauté donc de South of Market, qui est l'endroit où agit, où se rencontre la communauté BDSM de San Francisco, est évidemment mise à mal par, à la fois par le retour de bâton moralisateur des débuts de l'épidémie du sida, comme je vous le décrivais, mais évidemment par le sida. Et donc c'est toute une communauté qui va disparaître aussi à ce moment-là. La sexualité fait partie de nos conduites, elle fait partie de la liberté dont nous jouissons dans ce monde. La sexualité est quelque chose que nous créons nous-mêmes. Elle est notre propre création, bien plus qu'amener la découverte d'un aspect secret de notre désir. Nous devons comprendre qu'avec nos désirs, à travers eux, s'instaurent de nouvelles formes de rapports, de nouvelles formes de création. Le sexe n'est pas une fatalité, il est une possibilité d'accéder à une vie créatrice. Donc comme je vous le disais, cette communauté kinky qui avait commencé à selon Gail Rubin en tout cas, mettre en avant une fluidité des plaisirs qui, je pense, se retrouve très franchement dans une approche queer à la fois des identités et des sexualités. Cette communauté kinky donc disparaît, ou en tout cas est très, tout à fait mise à mal dans les années 80. Donc Michel Foucault meurt du sida en 1984, et les collectifs comme Grand Fury, mais aussi comme Groupe Matériol ou General ID succombent également à cette épidémie, même si je crois que cette continuité d'une idée queer des plaisirs est un peu la leçon, ou en tout cas ce qu'on peut garder de ce moment. Douglas Crimp a appelé également responsabilité queer un sentiment de communauté que la crise du sida aurait créé, et qu'un art queer actuel, à mon avis, retrouve, en tout cas sur lequel il se fonde. Crimp, lui, décrit en fait les complicités qui agissent dans l'acceptation de l'humanité, de tout un chacun, de sa fragilité, et dans la reconnaissance d'un inconscient qu'on ne contrôle pas. Il faut savoir que Crimp a été infecté par le virus du sida longtemps après son engagement dans la lutte aux côtés d'ACT UP, donc lui-même sait exactement de quoi il s'agit quand il parle de cette fragilité et cet inconscient incontrôlé. Et donc finalement, ce que nous dit à la fois Foucault, Akimbo, Crimp, c'est que être queer, c'est accepter d'être radicalement dans une posture antipatriarcale, que je crois est assez illustrée par cette image de Robert Mapplethorpe, donc qui illustre tout à fait les enjeux de représentation d'un art queer. Dans le portfolio X de Mapplethorpe, je crois que ce qu'il fait, c'est ce dont parle Gail Rubin, c'est vraiment de percer la poche de terreur dans laquelle se trouvent ces sexualités que la droite américaine, mais je crois que c'est un petit peu trop facile de parler de la droite américaine, je crois que beaucoup de gens ne veulent pas voir. Et finalement, esthétiser cette image du fist et cette image de l'anus qui sont en fait les objets les plus forts de l'angoisse homophobe, c'est véritablement aller dans ces enjeux de représentation queer. C'est aussi une représentation par laquelle l'enculé prend le pouvoir en remplaçant l'objet phobique. Et ça, c'est très important pour moi, ce renversement auquel procède Akimbo, mais auquel procède aussi Mapplethorpe. Je vais finir avec un extrait donc du livret dont vous avez vu la couverture tout à l'heure, Akimbo His Story, qui était un petit livret vendu par Akimbo dans la librairie Different Light, donc dans le quartier de Castro, en 1989. Vous pouvez l'appeler Boy ou vous pouvez l'appeler Nancy, appeler ses parents ou la police si vous voulez. Il est parti de chez lui il y a un bout de temps, et le monde qu'il a trouvé est pas facile, la mort et tout ça. Mais le Boy with Arms Akimbo a déjà traversé trop d'épreuves pour pouvoir retourner en arrière. Il vous regarde avec un demi-sourire, faisant face au monde avec détermination. Et avec tous ses frères et ses amants et ses amantes, toutes ses sœurs et ses tantes et ses oncles, on dirait bien que le monde est entre de bonnes mains. Mais n'attendez pas les bras ballants, il dit. faites quelque chose. Ah, bonne question. ça n'existe plus dans le sens où les membres d'Akimbo se sont dispersés et ne se sont pas remis à faire des affiches. Mais je crois qu'avec l'élection de Donald Trump, c'est assez possible qu'on retrouve des images, des affiches d'Akimbo qui reviennent. Donc il y a des membres d'Akimbo qui sont morts, il y en a un certain nombre qui sont encore vivants. Donc c'est possible que ça revienne, mais en tout cas leur action s'est plutôt limitée entre 89 et 92, jusqu'à l'élection de Clinton en fait, et au moment de l'élection de Clinton ils se sont arrêtés. Mais chacun peut être Akimbo, c'est ça qui est bien, c'est pour ça que je ne parle pas de la fin d'Akimbo.
Merci beaucoup. J'ai plusieurs questions. Déjà, je me suis demandé où est-ce que vous avez trouvé ces documents que vous nous avez montrés. Où est-ce qu'ils sont maintenant ?
C'est vrai que j'en ai pas parlé. Ouais.
Et aussi, alors c'est une question un peu plus extérieure, mais est-ce que par rapport à votre propre performance, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé en dehors du costume, mais dans le jeu, la parole
Non, parce que je suis très stressée, alors je pense à rien. À part, il y avait la préparation de la tenue, mais pour l'instant, ça sent. J'en reste là, mais je pense le faire évoluer, mais j'ai pas encore vraiment trouvé comment. Pour ce qui est des sources, en fait, c'est pour ça que je remercie la GLBT Historical Society de San Francisco, puisque c'est là où sont déposées les archives d'Akimbo. Ce sont 4 cartons, donc c'est pas énorme, mais c'est accessible aux chercheurs, enfin à tout le monde en fait, mais il faut aller à San Francisco évidemment, c'est pas, c'est pour ça que j'avais demandé une bourse pour y aller. Mais c'est aussi copyleft, c'est-à-dire que tout est reproductible sans payer de droit, donc ce qui est un peu à l'encontre de la politique de la GLBT Society, parce qu'évidemment eux ils ont besoin d'argent, donc si on veut faire des scans il faut payer les scans, mais il n'y a pas de droit de reproduction à payer à qui que ce soit pour Akimbo. C'est la façon dont je suis pas tombée sur eux, mais parce que donc la première fois que j'ai entendu parler d'Akimbo c'était dans le livre de Douglas Crimp que j'ai montré tout à l'heure, dans un article que Douglas Crimp a appelé The Boys in My Bedroom, qui est un magnifique article qui était paru dans October, je pense, à l'époque, et que j'avais trouvé dans une espèce de reader de Gay and Lesbian Studies. Et donc il parle très brièvement d'Akimbo, et j'avais donc cherché un peu plus, et finalement j'étais tombée sur des images quand même sur internet, et j'avais utilisé une image pour annoncer une conférence au CREDAC, et quelqu'un du groupe m'a contacté en me disant « Mais vous cherchez Akimbo, les archives sont disponibles. » Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais ce qui était drôle, c'est que justement, le fait que c'était copy... Je savais que c'était copyleft en lisant un petit peu ce que Crimp avait écrit et en lisant un petit peu sur Internet. Donc, j'avais utilisé cette image justement parce qu'elle était copyleft. Parce que le CREDAC n'avait pas les moyens de payer pour l'annonce de la conf, n'avait pas les moyens de payer des droits de reproduction. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, le copyleft crée une communauté. Parce que sinon je ne serais pas tombée sur ça, et j'aurais pas... Enfin voilà, donc il y a toute une histoire que je trouve assez intéressante, qui est un peu l'avocat, qui se fait l'avocat du copyleft, c'est que... Voilà, quand on laisse les choses en copyleft, tout d'un coup, on crée de la possibilité de récupération, de remise à jour, de travail. Voilà. Mais ouais, je sais pas si vous avez des suggestions pour ma prochaine performance, je suis preneuse. Je vais bien me soumettre à des entraînements, je sais pas. Mais peut-être que je devrais essayer de chanter, je sais pas. C'est déjà beaucoup, hein, je trouve. Pas trop en faire non plus.
Du coup, alors, une question, comment est-ce que vous en êtes arrivée à performer ?
Ah, bonne question. Alors, comment j'en suis venue à performer ? C'est que donc j'ai fait ce cycle de conférences au Crédac et il y avait 5 conférences et j'ai fait 4 conférences en étant habillée tout à fait normalement. Enfin, moi, en moi, version moi, version normale. Parce que c'est moi, mais c'est juste version un peu améliorée. Et en fait, au bout de 4 conférences où j'avais parlé de queer, de performance, de genre, de je sais pas quoi, je m'étais dit, bon, c'est quand même un peu bizarre d'être dans cette position soi-disant neutre qui n'est pas neutre parce que j'avais quand même j'étais pas nue, quoi, j'avais des vêtements, enfin, je veux dire, on n'est jamais neutre, ça veut dire quoi, neutre? Et puis à chaque fois je me posais la question comment j'allais m'habiller, est-ce qu'il faut que je sois un peu conférencière, genre est-ce qu'il faut que je mette une veste ou une chemise, ou est-ce que, enfin voilà, je me posais des questions. Et après je me disais, mais c'est quand même bizarre de laisser, d'avoir ce, c'est pour ça aussi qu'Akimbo me touche, c'est que je pense que ce truc de dire il n'y a pas de différence, il n'y a pas de hiérarchie, enfin qui est vraiment quelque chose d'anti-hiérarchique, c'est aussi que le conférencier il est dans cette position extrêmement confortable de bah ouais, lui il est aujourd'hui, il est pas en train de mourir du sida, il est dans ses habits de tous les jours, et puis voilà. Et le fait de me mettre en danger un peu comme ça, ça a permettait aussi pour moi d'être un peu du même côté, quoi, de pas être juste du côté de la parole. Et puis ça remet aussi en cause la parole, qui porte la parole universitaire ou scientifique, ou la parole, la pensée, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a un problème pour moi d'être du côté, d'être d'une côté d'une pensée qui s'exprime à travers un corps qui n'est pas vraiment en jeu. Donc, je pense que c'est important aussi de mettre. Et en plus, quand on parle de sexualité, quand on parle, je veux dire, c'est un peu. Enfin, la dernière fois que j'avais montré la photo de Matt Bolton, j'étais habillée tout à fait normalement et tout. Et bon, c'était marrant, ça crée un décalage, je pense. Bon, là aussi, ça crée un décalage, mais. Je veux dire, je trouvais que c'était bizarre quand même de faire ce truc genre, alors vous voyez sur cette slide numéro 10, vous voyez la photo d'un anus, enfin, je sais pas, je crois que c'était bizarre. Donc, c'est plus stressant pour moi d'être comme ça, mais en même temps, je trouve que ça, c'est plus cohérent.
Je sais pas s'il y a besoin du micro.
Je me demandais si tu avais une idée, s'il existait en France ou en Europe des groupes ou des collectifs similaires. Parce que du coup, les États-Unis représentent toujours en fait cet endroit où tous les mouvements réactionnaires sont ultra forts, et du coup, les mouvements aussi de contestation le sont tout autant. Et ils trouvent des méthodes complètement dingues. Mais est-ce que tu as une idée si ça existe aussi?
Oui, bien sûr, ça existe. Justement, avec Gérard, quand on était il y a 10 jours à l'école des Beaux-Arts de Dijon, on avait invité un activiste que connaissait Vanessa Desclos, qui nous invitait à venir écouter nos conférences. Gérard intervenait sur la GLBT Society, Historical Society, et leur fonds d'archives. Et en fait, il nous a envoyé, à l'issue de sa conférence, des posters qu'il avait réalisés lui-même avec des images pornographiques au moment de la Manif pour tous, avec des images pornographiques et des slogans. Qui sont finalement pas très éloignés de Akimbo, c'était très drôle, sauf que lui a utilisé pour le coup des images de films porno, ce que Akimbo n'avait pas voulu faire. Donc ça existe, c'est juste que, bon, là, si tu veux, bon, c'est tout l'intérêt de cette archive, c'est que on a une trace, entre guillemets, institutionnelle, tout d'un coup il y a quelque chose qui existe. Ça pourrait être évidemment le but d'une archive qui se créerait, on espère, en France, ici, enfin tu vois, de pouvoir recenser ce genre de choses. Et en parlant avec ce garçon donc à Dijon, il m'expliquait aussi comment les mouvements autonomes en région sont extrêmement productifs en termes de fanzines, d'affichage, etc. Lui, il en a une grande partie. Évidemment, c'est des choses qui sont tirées à 20, 30, 50, 100 exemplaires. Et donc, ces pratiques activistes, évidemment, elles sont pas tellement archivées. En partie, je pense, en ça, Renaud, toi, tu le sais mieux que moi, mais il doit y en avoir une partie qui sont archivées. Mais c'est vrai que c'est pas... Et en même temps, j'en parle là, et on a l'impression que c'est énorme, mais c'est la ville de San Francisco. Ça a un peu égrené autour. Il y a eu des arrestations récent à Yale parce que des étudiants avaient utilisé des affiches et s'étaient fait arrêter sur le campus de l'université en 90. Mais voilà, c'était pas une campagne mondiale non plus. Donc finalement, c'est aussi un coup de projecteur. Oui, disons que c'est aussi une façon de mettre un coup de projecteur qui est permis par l'archive aussi.
Donc, et ce jeune activiste, il connaissait qui?
Non, il ne connaissait pas. Il s'appelle Veg. Attention, hein, toi aussi, tu vas échouer ses archives, hein, je te vois venir.
Je réponds à une question que tu as posée au début de soirée qui t'a dit qu'est-ce que ça pourrait être un queer art aujourd'hui. Donc on a vu une approche qui est l'approche de Akimbo, tu as parlé de Barbara Kruger, Jane Kreutzer, c'est plutôt une idée de confronter les publics, de ranger un peu, en espérant qu'il y aura une
réaction.
Voilà. En même temps, les années 80, fin des années 80, début 90, l'autre côté connaissent aux États-Unis, il y avait aussi une autre approche qui est plutôt menée peut-être par Félix Savestor et sur un corps qui sont un œuvre très politique en même temps, beaucoup moins frontale et plus suggestive. Voilà. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'il y a une approche qui ça pourrait être plus efficace aujourd'hui, ou on a besoin de deux ou...
En termes d'art queer, tu veux dire?
Ouais.
Moi, je crois que, ce que je pose comme question, et c'est le sujet de ma recherche, c'est l'art politique finalement. C'est qu'est-ce que ça peut être un art politique aujourd'hui? Et quand j'ai étudié Grand Fury ou les productions d'Act Up, puisqu'on peut aussi parler des productions d'Act Up France, hein, pour ce qui est de finalement de ce genre de groupe, puisque Act Up a aussi produit des choses en France. C'était pour moi des choses qui sont très qui sont vraiment dans l'activisme et qui sont, même si ACT UP, Grand Fury a participé à la Biennale de Venise et a fait, je pense qu'il y a une idée d'efficacité qui est pas forcément celle d'Akimbo. Il y a une idée d'efficacité, mais pas d'un message très clair. C'est un message qui est plus diffus et qui est plus empowering, c'est-à-dire qui est plus qui te touche, qui te fait réfléchir. Et donc c'est là, pour moi, où se trouve toute la difficulté de saisir et d'imaginer ce que peut être un art politique, c'est que dès qu'il est trop efficace, hein, qu'il est dans un message trop clair, il cesse d'être un art et il devient de la politique. Donc c'est pour moi quelque chose de délicat, mais je pense que ces méthodes-là, en tout cas cette méthode qui vise à essayer de déconstruire ou de se déshabituer de ce que sont les mécanismes de l'art, le collectif, une façon, alors c'est pas le cas d'Akimbo, mais c'est le cas par exemple de Pauline Baudrier et Renate Lorenz, une façon de considérer l'histoire de l'art, l'histoire comme quelque chose de non chronologique. Tu vois, hacker en fait la chronologie, hacker les réflexes qu'on a par rapport à la façon dont on construit l'histoire de l'art. C'est ça qui vient créer de la distorsion, qui vient créer du renversement, et c'est ça qui pour moi est émancipateur, qui est politique et émancipateur. Je te dis pas que c'est immédiat, c'est pas parce que tu vois ça à Do Something que tu vas sortir et mettre le feu au Louvre, mais allons mettre le feu au Louvre. Mais c'est une façon aussi de se dire, pour moi, l'art, il sert à me faire réfléchir sur, pas seulement sur lui-même, quoi. On n'est pas dans un art autoréférentiel qui parle de l'art, on est dans un art qui parle de, notamment de sexe, et ça m'importe aussi. Tu vois, comment on a aussi, comment l'histoire de l'art s'est éloignée absolument de ce que c'est que la vérité du sexe, je sais pas, la vérité du sexe, c'est un peu bizarre, mais la réalité, quoi, les choses du corps, en fait, tout simplement. Donc je crois que toutes ces façons là de venir nous rattacher à des choses qui nous importent, c'est une façon de faire de l'art politique, et je pense que l'art queer y arrive très bien, parce qu'il vient nous dire mais non, vos façons de vivre, c'est pas, il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres, il y a d'autres, il y y a d'autres façons de, d'envisager un monde possible, en fait. Pour moi, c'est des représentations de monde possible. Voilà, c'est ça pour moi, un art queer, un art politique, un art queer aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu.